Bon, chers amis, séance un peu particulière, c'est la dernière de cette série de cours. Je vais faire une petite conclusion. C'est aussi la 10e année que je fais ce cours, et il s'avère que j'ai beaucoup parlé de ces catalyses hybrides. Je vais en profiter pour, très rapidement, raconter ces différentes années, enfin vous renvoyer d'ailleurs au programme, et puisque tout est accessible sur le site du Collège de France, vous renvoyez à certains des cours qui ont été donnés dans les années précédentes. Et puis, surtout, je le présenterai plus en détail tout à l'heure, ce cours se termine avec, cette année, donc j'ai eu des invités après chaque cours, et ce cours se termine cette année avec Christophe Copré, qui est vraiment un des grands spécialistes de cette chimie qui mélange moléculaire et surface et solide. Et donc je suis très heureux de terminer ainsi cette série de séances. Alors, vous vous souvenez de ça, de la catalyse homogène à hétérogène à la catalyse homogène. On a parcouru cette année pas mal de choses autour de ce qui est le plus à droite ici, y compris jusqu'à ces sites isolés sur des surfaces. J'ai rajouté ça. Dans la figure originale, il n'y avait qu'un complexe moléculaire, mais évidemment, la catalyse enzymatique, elle est homogène. Et je n'en ai pas du tout parlé cette année, mais comme vous allez le voir, je vais vous renvoyer à des périodes de passé dans lesquelles j'ai développé un certain nombre de choses. Voilà, donc la question que j'ai essayé de traiter au fond cette année, de façon très précise l'année dernière et puis parfois dans le passé, c'est cette question d'objets nouveaux dans lesquels on essaye de créer des synergies entre les différentes catalyses, donc hétérogènes, moléculaires homogènes et enzymatiques homogènes. On va parler d'hybrides. Parlons d'hybrides. Ces catalyseurs hybrides, ce sont lesquels? Comment il faut les choisir? Quelles sont les tendances? Et en fait, l'idée simple, ça serait de dire je prends le meilleur de l'un, je prends le meilleur de l'autre, je combine, donc ça doit être deux fois meilleur. En réalité, ce n'est pas si simple que ça, puisque si on prend un certain nombre de critères, ici très simplement, c'est un exercice que j'ai fait que vous ferez tous facilement, qui n'est pas très long à faire, hein, c'est un peu à la louche, mais d'ailleurs vous pourrez me dire si vous n'êtes pas d'accord. Évidemment, il y a un aspect de facilité d'accès à ces objets, donc la synthèse, la préparation. D'une certaine façon, j'ai envie de dire que c'est assez facile de faire un solide, c'est très difficile de produire des enzymes stables en grosse quantité. Voilà, c'est le sens de ces plus et de moins. Et au niveau de la chimie moléculaire, c'est toute la puissance de la chimie de synthèse moléculaire, mais en même temps, il y a certaines molécules qui sont... même si le chimiste peut théoriquement synthétiser à peu près tout et n'importe quoi sur le plan des molécules, il y a quand même parfois des difficultés, de sorte que sur un doctorant peut passer 2 ans à synthétiser une molécule. Voilà, c'est ça le sens. Alors, l'autre critère qui est important, c'est, j'ai appelé ça la modulabilité, en anglais tuning, c'est cette capacité à pouvoir modifier assez facilement l'objet d'étude à travers l'introduction de groupements stériquement encombrés, de groupements électro-attracteurs, électro-donneurs, etc., de changer les propriétés électroniques. Alors là aussi, le plus-plus, il est plutôt sur le moléculaire. Sur le solide, c'est un peu moins facile. Et évidemment, du côté biologique, j'ai mis moins, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'avec la puissance de la biologie moléculaire, la mutagénèse, et aujourd'hui même l'évolution dirigée, vous avez vu cette année le prix Nobel de chimie de Frances Arnold sur le sujet. Donc on pourrait dire que là, c'est un peu exagéré. Il faut caractériser tous ces matériaux, donc évidemment, une petite molécule, c'est plus facile qu'une grosse molécule comme une enzyme. Alors, je vous ai plusieurs fois dit à quel point j'avais été fasciné ces dernières années en étudiant le solide, ce qui n'est pas ma culture principale, de voir à quel point il existait aujourd'hui des techniques d'analyse qui permettaient d'avoir une information presque à l'échelle atomique, alors que je pensais que c'était uniquement le lot de la chimie homogène. Du point de vue des activités, évidemment, les enzymes sont puissantes en termes d'activité, de fréquence de turnover. Voilà. Donc c'est sûrement les champions, enfin pour les réactions qu'elles catalysent, ce sont les champions en termes d'activité. Et puis il y a la question de la stabilité qui est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Et là, évidemment, on a un problème avec les enzymes, c'est moins stable. Et en gros, j'ai mis plus parce que finalement, je crois qu'il y a une sorte de fantasme qui voudrait nous faire dire que un catalyseur peut être éternellement stable, ce qui est évidemment pas vrai. Et alors, vous avez un problème avec ce tableau-là, parce que la question, c'est, finalement, il n'y a pas de plus-plus sur la même colonne. Donc, je vais revenir plusieurs fois sur l'idée, est-ce qu'avec deux moins, on peut faire des plus? Et là, on est un peu embêté pour savoir ce qu'on doit combiner. En réalité, eh bien, je dirais que, sur le plan de la recherche purement fondamentale, tout est bon à étudier, c'est-à-dire toutes les combinaisons, et se permettre d'aller voir, pas uniquement sur la base du tableau précédent que j'ai indiqué, qui pourrait nous dire, laissons tomber des plus multipliés par moins, ça fera du moins, donc on ne va pas avancer. Par contre, alors, ces deux dernières années, hein, j'ai essentiellement parlé de catalyse sur l'activation des petites molécules, hein, réduction de l'oxygène, oxydation de l'eau, réduction du CO2, parce que je ne me suis pas placé dans le contexte des nouvelles technologies de l'énergie, les électrolyseurs, les piles, enfin, etc. L'intérêt d'écouter aujourd'hui Christophe, c'est qu'il va aussi nous parler de tout un tas d'autres réactions dans lesquelles ces catalyses hybrides peuvent être utilisées. Mais j'ai conclu quand même, et à plusieurs reprises, en dépit de ma culture de chimiste moléculaire, j'ai conclu quand même que lorsqu'il s'agira de construire des électrolyseurs de demain ou des piles, ça sera du solide. À nouveau, je répète, ça ne sera pas des molécules qui flotteront dans l'électrolyte, et même les enzymes, elles seront fixées sur le solide, si c'est des bioélectrodes ou des choses comme ça. Voilà, alors oui, la question, c'est est-ce qu'on peut faire... Alors ça, c'est un tableau complètement aberrant. J'ai mis des plus et des moins n'importe comment, mais en gros, c'est pour vous dire, voilà, j'ai jamais plus au même endroit, entre X et Y, et l'hybride, je voudrais qu'il soit plus partout, Donc c'est ça l'objectif. Bon, en réalité, pour le moment, c'est pas atteint, mais c'est la difficulté. Donc, quelle est la situation aujourd'hui? Moi, j'ai beaucoup évoqué, j'ai pas parlé d'enzymes cette année, mais j'ai beaucoup évoqué la fixation de petites molécules sur des surfaces, mais en gros, il y a toutes les combinaisons qui sont étudiées aujourd'hui. Tout est étudié. Je vais balayer tout ça, mais si vous voulez, petites molécules fixées sur des solides, donc c'est tout le domaine des photoélectrodes, des électrodes moléculaires, des cellules à colorants, de la chimie organométallique de surface, dont on va nous parler... Christophe, j'ai beaucoup parlé des MOF, des polymères de coordination. Ça peut être des enzymes ou des bactéries fixées sur des solides, des bioélectrodes, de l'encapsulation de tout ça. Ce sont des enzymes artificielles avec des petites molécules qui sont fixées sur des chaînes polypeptidiques, sur des protéines. Et puis, ce sont aussi, j'ai évoqué ça dans le passé, mais je rappellerai, des solides qui sont introduits dans des bactéries, et des solides de synthèse, hein, et des molécules de synthèse qui sont introduites. Et je parle ici d'organismes chimiquement modifiés. C'est aussi un domaine. Donc vous voyez, toutes les combinaisons sont testées aujourd'hui. Alors, je rappelle à nouveau l'hybridation solide-molécule, c'est-à-dire fixer des petites molécules sur des solides. Ça a été énormément fait. Il n'y a pas tellement d'applications industrielles pour le moment. Évidemment, je ne peux pas ne pas citer le travail qu'on avait fait avec Vincent Artero, qui est exemplaire d'un catalyseur de réduction des protons en hydrogène sur des nanotubes de carbone, mais c'est juste pour vous rappeler le type de choses qu'on peut faire. C'est très développé, donc il y a tout un tas aujourd'hui de... Enfin, n'importe quel chimiste qui s'attaque à ça peut trouver assez facilement à sa disposition des méthodes de greffage connues de diverses façons pour fixer une molécule sur un solide. Il y a encore assez peu de choses sur... vous voyez, il y a la molécule, il y a le solide, et puis finalement, il y a quand même des choses un peu complexes aux interfaces. Et ça, ce n'est pas toujours très bien étudié. Voilà, la question de la stabilité, la question de la nature des espèces actives, ce sont des questions qu'il faut résoudre. Il y a quelques succès, mais ce n'est pas industriel. Mais vous voyez, ça peut aller très loin. Hein, voilà, vous commencez à voir aujourd'hui des systèmes complets électrochimiques. Ici, c'est une cellule photoélectrochimique pour le water splitting, pour la décomposition de l'eau, où vous avez aussi bien sur la partie anode que sur la partie cathode, fixé sur des solides, à la fois des dyes organiques, des colorants organiques, des catalyseurs. Ici, c'est du ruthénium pour faire l'oxydation de l'eau. Ici, c'est un autre colorant organique. Ici, c'est un catalyseur pour la réduction des protons. Donc, vous voyez, ça peut aller très loin dans l'assemblage. Je cite aussi ce travail qu'on a fait au laboratoire avec Grégoire Paille, parce qu'il y a énormément de travaux sur les MOF, sur Metal Organic Frameworks, qui sont des matériaux qui permettent d'encapsuler, de fixer tout un tas de petites molécules. C'est aussi un très gros développement aujourd'hui, j'en ai parlé. Donc tout ça a fait l'objet de ce que j'ai raconté en particulier cette année. Je n'ai pas parlé d'enzymes, mais je veux rappeler aussi que la synergie entre la chimie de coordination et la chimie enzymatique est développée à travers, en particulier, ce domaine des enzymes, de l'enzymologie artificielle, des enzymes artificielles. Et finalement, la question, c'est est-ce que... Alors nous, on développe on a des projets sur ces diverses enzymes artificielles. Et finalement, la question, c'est, alors que la nature n'a pas couplé ces deux systèmes, le catalyseur de synthèse et une chaîne polypeptidique, est-ce que lorsqu'on les met ensemble, on peut faire quelque chose d'intéressant sur le plan catalytique ? De mon point de vue, c'est passionnant parce que... la nature a choisi pour faire de la catalyse de mettre des petits complexes métalliques à l'intérieur de chaînes polypeptidiques et on ne sait toujours pas pourquoi tout d'un coup ce petit truc à l'intérieur qui n'est pas très impressionnant sur le plan catalytique devient fantastiquement fort, puissant en catalyse à cause de cet environnement protéique. D'une certaine façon... quand on étudie la catalyse en chimie bio-inorganique, donc des métalloprotéines, la démarche classique, c'est de prendre une métalloprotéine et de la modifier, de modifier les acides aminés pour attribuer des fonctions, si vous voulez, à la première sphère de coordination, à la seconde, à la troisième, et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que le catalyseur à l'intérieur de l'enzyme est actif, et autant actif. Et quelles sont les contributions de tout ce qui tourne autour en termes de chaînes polypeptidiques et d'acides aminés. Ici, dans cette démarche-là, le rêve, c'est de partir de faire le chemin à l'envers, un peu comme cela a été fait au cours de l'évolution, Et donc, c'est toutes les approches, effectivement, d'évolution dirigée. À nouveau, je cite ce prix Nobel de Frances Arnold, qui consiste à optimiser pour une fonction donnée un assemblage entre un site catalytique, enfin entre un catalyseur de synthèse et une chaîne polypeptidique. Dans notre cas, par exemple, nous travaillons à l'élaboration d'hydrogénases artificielles pour la production d'hydrogène. Et je crois qu'il peut se permettre d'aller voir ce travail-là que nous avons publié dans les années 2013 et qui continue à être très cité et très utilisé. C'est une technologie maintenant puissante pour la maturation des hydrogénases. En fait, on a un cas ici absolument unique où vous prenez une protéine, bon, elle a un 4 fer, 4 soufre, une protéine qui est totalement inactive. Vous lui rajoutez un catalyseur, ces deux atomes de fer ici, biomimétique, qui mime le site actif d'une hydrogénase, mais qui est un très mauvais catalyseur. Ce complexe n'est pas rigoureusement identique à ce qui existe dans l'hydrogénase naturelle. Et quand vous ajoutez ce petit catalyseur à la protéine, vous avez un système absolument puissant. C'est un objet d'étude assez intéressant pour comprendre comment l'association de deux choses absolument lamentables en catalyse deviennent par association le meilleur catalyseur pour la production d'hydrogène. Ah, ça c'est... Voilà. Donc, quel rationnel pour le choix de la protéine ? C'est des choses pas très faciles à conclure. Il n'y en a pas. Il y en a quelques-uns, mais... Ça peut être très complexe lorsque vous avez des enzymes redox. Comment introduire de façon rationnelle des chemins de transfert d'électrons, des chemins de transfert de protons, des chemins de transfert de gaz, quand il s'agit par exemple d'hydrogène. Voilà. Et par rapport à la question que j'ai posée depuis ces deux années sur l'activation des petites molécules, évidemment, c'est tout le domaine des hydrogénases artificielles, peut-être demain des enzymes artificielles qui font de la transformation du CO2, des photosystèmes artificiels, enfin, etc., etc. Des molécules ou des solides dans des bactéries. Ça existe aussi, des gens travaillent là-dessus. Par exemple, introduire des matériaux de type des polymères conducteurs ou des nanotubes de carbone à l'intérieur de cellules de plantes, de bactéries, de systèmes photosynthétiques pour améliorer les transferts d'électrons. Donc effectivement, je parle d'organismes chimiquement modifiés. Ici, c'était le cas de bactéries qui ne sont pas photosynthétiques, mais qui le deviennent à partir du moment où on leur introduit des semi-conducteurs de type sulfure de cadmium, par exemple. Bon, à travers, vous voyez ici, cette bactérie se retrouve avec du sulfure de cadmium, des cristaux, des particules de sulfure de cadmium en surface, mais qui sont suffisamment bien connectées avec la machinerie de la bactérie pour devenir véritablement photosynthétique. Ici, une bactérie qui ne produit pas d'hydrogène, mais qui tout d'un coup est capable de produire de l'hydrogène suivant le résultat que je vous ai montré ici, en introduisant ce petit complexe dans la bactérie, cette bactérie devient capable de produire de l'hydrogène. Voilà. Donc tout ça, ça existe. Ce sont pas énormément d'exemples, mais vous voyez, ce sont des projets qui avancent. Je vais aller plus vite pour pas perdre trop de temps. Il y a aussi des bioélectrodes, des photoélectrodes qui sont associées à des bactéries et tout ça travaille ensemble pour faire de la photoélectrosynthèse microbienne. Des enzymes sur des solides, c'est tout le domaine des des bioélectrodes. Hein. Ici, j'ai souvent évoqué le cas des hydrogénases qui sont déposées sur des électrodes. Ici, Erwin Reisner à Cambridge a fait une cellule photoélectrochimique purement enzymatique dans laquelle vous avez un photosystème naturel sur l'anode, sur la photoanode, et vous avez une hydrogénase sur la cathode. Et ce système-là permet, donc avec des performances assez intéressantes, de faire du water splitting, la décomposition de l'eau. Toutes sortes d'enzymes aujourd'hui sont mises sur des électrodes pour regarder leur potentiel. Je cite ici des enzymes pour la réduction du CO2, des CO des hydrogénases ou des formiates des hydrogénases. Ce sont des développements qui sont en cours. Très difficiles, mais ce sont des choses qu'on voit. Voilà, donc ce que je voudrais dire, c'est pour terminer, c'est que pour ceux qui sont intéressés par cette hybridation des systèmes, hein, moléculaires, solides, enzymatiques, évidemment, c'est un, ce que je mets ici, c'est un domaine sans limite pour l'imagination. Des tas de combinaisons sont possibles, des tas de choses inattendues vont surgir de cette hybridation. La grosse difficulté, c'est que c'est multidisciplinaire, multiculturel. Je l'ai dit plusieurs fois, la tendance continue à mettre des barrières entre les disciplines. C'est vrai dans les instituts de recherche. Je n'ai pas commencé en Suisse, mais clairement en France, ça l'est, hein, avec un CNRS où vous avez un département de chimie, un département de sciences de la vie. Voilà. Et puis, si vous êtes classé chimiste, vous n'avez pas le droit d'aller voir du côté des sciences de la vie, inversement, enfin, etc. C'est la même chose dans les universités. C'est d'une certaine façon la même chose très tôt dans la formation, dans les collèges et dans les lycées. Et donc, c'est hyper exigeant. Souvent, on m'a répondu tout au long de ma carrière, parce que moi, j'ai fait de l'hybridation toute ma vie. On m'a toujours répondu, si tu es chimiste et tu veux faire de la biologie, tu collabores avec des biologistes. Alors, en partie, c'est vrai, il faut faire ça, on ne peut pas avoir toutes les compétences. Mais en même temps, j'ai toujours considéré que tout un tas de ces projets que j'ai évoqués ici ne pouvaient pas se faire s'il n'y avait pas au même endroit les compétences et la culture partagées. Et c'est pour ça que, depuis des années, je vous parle de systèmes qui ont un lien avec la biologie, même si je suis chimiste. D'ailleurs, je ne sais plus ce que je suis exactement. Mais effectivement, c'est exigeant. Et pour les étudiants, ça l'est aussi, qui sont dans mon laboratoire. Évidemment, certains sont ici. Il faut être ouvert à affronter toutes ces cultures. Il y a encore plein de choses à comprendre sur les interfaces, parce qu'on parle d'objets hybrides, mais souvent on décrit la partie. C'est un objet complexe, mais on parle d'un élément séparément, puis on parle de l'autre. On essaye de les caractériser, mais il y a quelque chose au milieu qui est un peu particulier, et c'est là que tout se passe. Et souvent, c'est oublié ou peu étudié, parce que d'abord, c'est difficile. Mais c'est là que se passent les choses. Le bilan, pour le moment, n'est pas exceptionnel, hein, faut dire les choses. Il n'y a pas d'enzymes artificielles utilisées dans l'industrie, il n'y a pas de catalyseurs. Même, vous voyez, notre plus bel exemple avec Vincent Artero de ce catalyseur bio-inspiré à base de nickel sur des nanotubes, qui est vraiment impressionnant, qui maintenant... Moi, je ne travaille plus là-dessus, mais Vincent Artero, dans ses derniers papiers, a montré à quel point il les avait améliorés. Et c'est vraiment des tout meilleurs catalyseurs pour la réduction des protons et même pour l'oxydation de l'hydrogène. Mais ce n'est pas à l'échelle industrielle. Voilà. Alors, voilà, pendant ces 10 ans, j'ai parlé de beaucoup de ces choses-là, un peu au cours des différentes années. Je vous renvoie, si vous êtes intéressés, à ces années 2011-2012, vous voyez, où j'ai parlé de catalyseurs bio-inspirés de métallo-enzymes artificielles, chimie biologique ou biotechnologie. Donc là, j'ai beaucoup parlé d'organismes chimiquement modifiés, de bioélectrodes, etc. Et puis, ces deux dernières années, donc de façon extrêmement poussée, parce que ça a été sur 2 ans, catalyse hétérogène et activation de petites molécules entre l'an dernier et cette année. Voilà, on a évoqué les catalyseurs greffés, moléculaires greffés sur des surfaces, les catalyseurs solides à sites isolés, enfin, etc. Voilà. Et donc, je vous promets, l'année prochaine, je ne parlerai pas de ça. Et je ne sais pas d'ailleurs de quoi je parlerai, mais pas de ça. Voilà, je vous remercie.